traces de Napoléon dans les Basses Alpes, un documentaire et une exposition pour tout comprendre.
Le Ciné-Étoile de Digne a pu suivre mardi 20 avril les traces de Napoléon dans les Basses Alpes grâce à un documentaire. À l'occasion du bicentenaire de la traversée de Napoléon Ier dans les Basses Alpes, ce documentaire de Nicolas Dortoli a été projeté en avant-première. Intitulé très justement « Sur les traces de Napoléon », il a été complété par une exposition organisée par les archives départementales sur donc Napoléon et sa traversée des Basses Alpes. Pour rappel, le vol de l'aigle est passé par notre département il y a 200 ans. En exil à l'île d'Elbe, l'empereur Napoléon Ier ne rêvait qu'à une chose, reconquérir son trône laissé vacant 11 mois auparavant. Débarqué à Golfe-Juan quelques jours plus tôt, le Corse, le plus célèbre de l'histoire, avait avec lui 1100 hommes pour monter vers Paris et renverser Louis XVIII. Les sentiers empruntés le furent à un rythme très soutenu et lors de cet itinéraire faisant partie des 100 jours, il est passé dans notre département. Au cours de son périple basalpin, Napoléon Ier a toujours payé ce qui lui était nécessaire pour mener à bien son désir de rejoindre les Tuileries à Paris. Jean-Christophe Labadie, conservateur des archives départementales du 04, répond aux questions de Jean-Marc Leca sur les détails de cette marche et l'exposition en cours. Mais avant cela, je vous propose de vous replonger dans l'ambiance de l'époque grâce à un extrait de la marche du sacre de Napoléon Ier de Jean-François Le Sueur, interprété par l'harmonie départementale du 04.
Aujourd'hui, nous commémorons la traversée de Napoléon dans les Basses-Alpes en 1815. Par où est passé Napoléon pour venir jusqu'à Digne?
En fait, il venait de Serranon, en ayant débarqué à Golfe-Juan, qui était à l'époque était dans le Var, puisqu'on est dans l'arrondissement de Grasse. Il est arrivé jusqu'à Serranon, de Serranon, donc il est passé à Castellane, de Castellane, Barème. De Barème, il a pris l'ancienne route qui monte en fait par les cols pour arriver à Digne du côté des eaux chaudes. Et puis ensuite, il a pris la route, une route qui était assez difficile quand même, malgré qu'elle soit moins pentue. Par Madjet, et puis ensuite il a pris donc par la rive gauche pour remonter jusqu'au pont de Sisteron, en passant par, non pas par la grande route qui était de l'autre côté, hein, la grande route d'Aix à Gap, mais par l'ancienne route, et il a rejoint donc cette grande route à Sisteron, et de là il a été très très rapidement ensuite sur Gap.
Son passage à Digne était bref, il a déjeuné à l'hôtel du Petit Paris, il était passé par la rue Mère de Dieu pour rejoindre Place du Marché.
Alors effectivement, c'est intéressant aussi de se rendre compte qu'en fait nos chemins d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les chemins de l'époque. En fait, il arrive, la ville est encore à ses remparts, hein, donc il arrive par la porte qui ouvrait donc sur la rue Mère de Dieu, toute petite rue, et il arrive donc par le haut de Digne. En fait, il fait juste un virage pour aller manger donc à l'hôtel du Petit Paris. En fait, il est dans l'endroit stratégique de Digne puisque c'est pas très loin de la mairie, pas très loin de la préfecture, et d'ailleurs il comptait évidemment rencontrer le préfet. Il rencontrera seulement le maire.
La traversée des Basses-Alpes à l'époque a été une manne financière également.
Alors oui, évidemment, c'est je crois que dans les dimensions du trésor, ça a une dimension métaphorique qui est importante en fait. Il ensemence littéralement les Basses-Alpes et fait profiter d'une manne les Basalpins, car en fait il paye tout ce qu'il va prendre sur place, que ça soit de la nourriture, des animaux de bas, des charrettes, le transport de ses troupes et de ses bagages. Tout ça est payé rubis sur l'ongle. Et donc en fait, effectivement, il amène de la prospérité et de la richesse, il est vraiment littéralement dans les Basses-Alpes.
Il y a quelques anecdotes qui divergent concernant notre région.
Alors il y a effectivement une série d'anecdotes qui sont plus ou moins vraies et sans doute peut-être basées sur des faits réels, hein, au départ une légende en fait, hein, mais très largement développées, comme par exemple l'omelette de la clape ou le trésor qui aurait basculé, enfin le mulet chargé de caisse, enfin, de Napoléon en l'occurrence, qui aurait basculé en descendant vers les eaux chaudes et qui aurait profité là aussi aux Basalpins, qui aurait pu récupérer les pièces qui n'ont pas été ramassées, car dans sa précipitation la troupe doit avancer vite et donc elle ne peut pas perdre trop de temps.
La route Napoléon était inaugurée en 1932. Est-ce qu'elle a évolué depuis?
Alors en fait, la route Napoléon, quand elle est inaugurée en 1932, c'est une route touristique. Hein, c'est vraiment l'ambition, c'est d'allier l'histoire, hein, car il y a des historiens dans cette affaire-là, mais aussi le tourisme, dans le cadre du développement local. Et donc, cette route n'est pas exactement la route, la vraie route Napoléon. En fait, elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. On ne passe plus par de Barème à Digne par le haut, mais en fait, on passe par l'Écluse. Il y a cette dimension historique. Histoire et touristique.
Et cette route historique, fort peu carrossable, a été parcourue au pas de charge.
Bien sûr, en fait, c'est un peu dit ce soir lors de cette manifestation, mais c'est vrai que le pas du touriste est beaucoup plus lent que le pas du militaire qui doit gagner en fait un trône. Hein. Donc Napoléon en fait avance. Alors lui, il est à cheval, mais il a des hommes qui sont à pied. Hein. Il a ses grenadiers, il a d'autres troupes à pied et il marche à marche forcée, enfin, littéralement vraiment, et le plus vite possible. En fait, il épuise les hommes. L'ambition étant d'arriver le plus vite à Paris, de devancer la rumeur de son arrivée, devancer l'information. Et surtout, il est poursuivi des deux côtés par des troupes royalistes. Son objectif, c'est de surprendre tout le monde, y compris ceux qui, devant lui, pourraient lui poser problème, comme par exemple à Sisteron, et puis ensuite à Gap, et encore tout le long de son itinéraire, en fait, hein, même à Grenoble.
Napoléon dormait fort peu. Est-ce que ses grognards lui en voulaient ?
Alors, je pense qu'ils étaient sans doute très habitués. Alors, il a les fidèles et fidèles avec lui, hein, donc des gens qui ont combattu sur tous les théâtres. Car il faut quand même penser que, en gros, depuis 1792, la France est en guerre permanente, quasiment, et que ce sont des gens qui ont vraiment l'habitude de la dureté de la vie d'une troupe en campagne, qui ont l'habitude de marcher, l'habitude de porter des charges très très lourdes, de manger, de dormir peu, de manger assez mal. Ce sont des soldats d'élite.
200 ans après, est-ce que cette route Napoléon beaucoup pratiquée par les touristes?
Je constate que cette année, l'année du bicentenaire, est une année importante. J'ai l'impression quand même que cette affaire est très médiatisée et à juste titre, car c'est effectivement une occasion rêvée de découvrir les paysages basalpins.
Un dernier mot, est-ce que Cambronne est venu à Digne?
Alors oui, bien sûr. Oui. Alors il a pas dit son mot, évidemment. Hein, mais effectivement, c'était l'avant-garde. Hein. C'est lui qui en fait préparait le passage Napoléon, qui trouvait les étapes, qui s'assurait la sécurité, qui protège les ponts à Maligey au cas où une troupe pourrait traverser. Car de l'autre côté, finalement, il y a des troupes trop peu armées, trop peu nombreuses, et puis qui s'assure de Sisteron, puisque lui, il a presque une demi-journée d'avance sur le gros de la troupe, et il s'assure en fait de la citadelle et du pont.
Merci.
Mais je vous en prie. Merci.